Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face. Merci d'être au rendez-vous tous les samedis. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à nous écouter et je vous en remercie du fond du cœur. Au sommaire de l'émission, dans un instant, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis le débat ce samedi, coronavirus et mondialisation. Et si l'épidémie que nous traversons était le vrai trauma mondial, le premier vrai traumatisme global et peut-être même un traumatisme fondateur, un événement qui bouscule les équilibres géopolitiques, une crise aux conséquences dramatiques et qu'on commence à peine à mesurer, mais une crise qui serait l'occasion de construire pour la première fois une véritable communauté internationale. C'est à gros traits l'idée que présente l'un des meilleurs spécialistes des relations internationales, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine. Il nous expliquera pourquoi. Hubert Védrine qui sera au micro de France Inter dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, le duel.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver comme chaque semaine. On va bientôt entrer dans le dur et revenir avec vous sur quelques-uns des temps forts, des moments marquants de la semaine. Mais c'est maintenant une tradition, un rendez-vous tous les samedis. Gilles, vous suivez à la Fondation Jean Jaurès et avec l'IFOP, l'évolution du moral des Français. Avant de parler du confinement, du déconfinement et éventuellement des questions soulevées par l'application et la surveillance numérique des citoyens pour lutter contre le coronavirus, expliquez-nous votre analyse, où en est aujourd'hui le moral des Français?
Écoutez, si je le dis en un mot, vous vous souvenez, il y a 15 jours, pour ceux qui nous écoutaient, il y avait une forme d'effervescence liée à la découverte d'une situation nouvelle. La semaine dernière, ce qui prédominait, c'était la montée d'une forme de peur, d'une forme d'angoisse, et qui modifiait d'ailleurs nos pratiques, y compris la manière dont nous faisions nos courses. Cette semaine, ce qui gagne les Français, c'est la lassitude. Il y a une baisse du moral liée au sentiment d'une répétition, d'un brouillage temporel. On ne sait plus exactement quel jour on est. Il y a moins d'entrain dans l'échange de SMS ou dans les appels. Et donc, c'est une petite baisse de morale face à une situation qui dure et qui, pour beaucoup, est une situation difficile.
Une situation qui dure, mais qui est marquée par l'angoisse ou par l'ennui?
Mais qui est lié par les deux. Il y a l'angoisse qui existait déjà, qui était montée fortement la semaine dernière et qui demeure, mais à cela s'ajoute l'ennui ou disons la lassitude devant la répétition.
Natacha, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je pense que nous comprenons tous en fait que ça va durer et que ça va durer bien au-delà de la question du confinement, de la simple sortie, et que c'est ça qui explique cette à la fois cette lassitude et cette angoisse, c'est le fait que il est très difficile pour un citoyen qui écoute les discours des uns et des autres de comprendre exactement vers quoi on se dirige. Dans le sens où ce qui est expliqué sur cet horizon qui permettrait de faire tenir les gens, qui serait le déconfinement. Oui. Bien, d'abord, ce que chacun constate, c'est que ça va être une crise économique majeure qui va durer plus longtemps que le confinement, c'est-à-dire que cet été, la question de savoir s'il y aura des festivals, si on pourra partir en vacances, ça veut dire est-ce que l'industrie touristique va survivre ou pas, est-ce que l'industrie culturelle va survivre ou pas. Tout cela, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Ça, c'est la dimension économique. Mais il y a la dimension sanitaire aussi. C'est-à-dire, comment voulez-vous que les Français aient une vision, et d'ailleurs c'est vrai dans d'autres pays, aient une vision de ce qui va se passer quand on leur dit « bon, il faut déconfiner, mais pour déconfiner, il faut que ce soit sécurisé. Pour que ce soit sécurisé, en fait, le mieux serait qu'il y ait une immunité de groupe. Donc, on va essayer de mesurer cette immunité. Mais en même temps, on leur dit, il faut surtout pas que les gens attrapent ce virus. Ouais. Donc, si on fait en sorte de ne pas l'attraper, à quel moment on atteint l'immunité de groupe? Est-ce que, comme le propose Anne Hidalgo, on va avoir une forme de certificat d'immunité pour ceux qui, donc, pourront se déplacer plus facilement puisqu'ils ne seront plus à risque?
Et on va dans l'écouter dans un instant.
Est-ce que ça va pénaliser ceux qui s'étaient protégés? Toutes ces questions-là rendent en fait la sortie extrêmement floue. Ce n'est pas de la faute des autorités dans la mesure où personne ne sait, par exemple, si une immunité protège réellement ou pas. En revanche, là où les autorités pourraient être plus claires, c'est sur l'idée que finalement, le fait, il va falloir à un moment sortir, nous ne serons pas pour autant sûrs que ça va bien se passer, et donc la seule solution, c'est de protéger, et de protéger, j'allais dire, avec tous les moyens possibles, c'est-à-dire tant qu'on n'expliquera pas que les masques, par exemple, pour tout le monde, c'est la seule solution, et des tests massifs, ce flou perdurera, je pense.
Justement, avant de parler du déconfinement et de l'attente de ce déconfinement, un mot, Gilles, quand même, pour comprendre ce qu'il y a dans la tête des Français, ou en tout cas de ceux qui représentent les Français et dont vous suivez le moral et les idées chaque jour. Il y a quelque chose de frappant dans ce que dit Natacha, c'est la question de la protection. Est-ce que les gens ont l'impression qu'ils sont suffisamment protégés en ce moment ?
Non, alors les gens, de manière logique d'ailleurs, hein, se sentent d'une certaine manière en danger, ou en tout cas, évidemment, ceux qui travaillent et qui travaillent à l'extérieur sur leur lieu de travail, qui représentent, on l'évoquera peut-être tout à l'heure, c'est un très gros tiers des Français, évidemment, ceux-là se sentent par nature insuffisamment protégés, et d'autant moins protégés qu'ils sont au contact du virus, mais y compris les Français qui sont confinés ont une peur, et une peur croissante d'attraper cette maladie, d'autant que tout ce qu'ils voient est un côté un peu inattendu de l'évolution de ce virus, et donc ça renforce évidemment l'angoisse.
Mais d'un mot, puisque ma question peut paraître absurde, mais les Français sont de moins en moins nombreux à penser que le pire est devant eux.
Oui, alors ça c'est, disons, le côté positif de...
Mais c'est le côté paradoxal.
Dans ce petit moral, il y a quelque chose qui est nettement plus positif. Il y a 8 jours, donc il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, vous aviez 75% des Français qui disaient « le pire est devant nous ». Une semaine après, ces 75% sont devenus 45%. Et donc ça, l'idée que il y a une forme de maîtrise de la montée de l'épidémie, et que surtout... la perspective du déconfinement, même si elle est lointaine, est une perspective. Ces idées-là commencent à s'installer et contribuent, disons, à contrebalancer cette perte de morale.
Et justement, puisqu'on parle du déconfinement, de la lumière au bout du tunnel et de cette lueur d'espoir, il y a en attendant les durcissements du confinement et de nouvelles règles, des mesures plus sévères aujourd'hui, et notamment celles décrétées par de nombreux maires. Écoutez Anne Hidalgo, la maire de Paris.
Vous avez fait référence tout à l'heure à l'arrêté sur le jogging à Paris. Mmh. C'est un arrêté pris conjointement avec l'État, hein, avec le préfet de police. Et nous ne sommes pas encore arrivés à une situation qui permette de relâcher nos efforts. Il faut que chacune et chacun le comprenne. Et bien sûr, on peut évidemment faire de l'exercice physique. C'est très important aussi. Mais avant 10h et après 19h, c'est-à-dire à des moments où on croit beaucoup moins de personnes.
Je trouve ça idiot, puisque maintenant les joggeurs, on se retrouve tous en même temps, alors qu'avant on se répartissait plus sur la journée.
Moi, ça se densifie beaucoup. Donc je suis pas sûr que cette mesure soit vraiment efficace, quoi.
Anne Hidalgo, la maire de Paris, sur France 5 il y a quelques jours, et deux joggeurs parisiens qui ne comprenaient pas pour qu'on leur interdise de faire des jogging pendant la journée. Est-ce que vous comprenez, Natacha et Gilles, les raisons qui poussent certains maires à craindre un relâchement, l'indiscipline des Français, et de vouloir durcir encore les mesures du confinement ? Natacha ?
Alors, il y a différentes sortes de mesures de la part des maires, et ils relèvent d'analyses différentes de la situation. Il y a la question de la crainte de l'indiscipline, qui est tout à fait justifiée dans la mesure où on en a déjà parlé ici plusieurs fois, mais cette question du civisme, de la prise de conscience, du rôle de chacun, de son implication, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, qui se construit sur le long terme, et donc, à un moment donné, ça doit aussi être, comment dire, soutenu par des positions presque coercitives. Simplement, il ne peut pas y avoir que les dispositions coercitives, et surtout, il faut qu'elles soient logiques. Et là, par exemple, typiquement, la question des horaires de jogging est une décision qui peut paraître totalement illogique aux gens, de telle sorte que ça ne les aide pas à appliquer les règles, puisque l'évidence, c'est que ça concentre les joggeurs sur un petit nombre d'heures.
Oui.
Mais derrière ça, il y a toutes les positions des autres maires qui nous racontent une chose. C'est qu'on a des maires qui ont envie d'agir. Par exemple, tous ces maires comme le maire de Sceaux qui rend obligatoire le port du masque. C'est tout simplement parce qu'on voit là une opposition entre le pouvoir central et les décisions locales qu'il va falloir analyser. Je pense que c'est un fait majeur. Regardez, en Allemagne, le président du Land de Bavière est une personnalité qui est en train de surgir parallèlement à Angela Merkel, parce que à chaque fois, les citoyens ont besoin aussi que localement il y ait une action, dans la mesure où ils ont l'impression, et c'est pas le cas en Allemagne, mais en France ça l'est, que le pouvoir central ne maîtrise pas. Et il est légitime de la part des maires, à un moment donné, d'essayer d'agir, et en tout cas pour ce qui est de l'usage des masques, ça me semble tout à fait nécessaire, dans la mesure où les discours sont plus que flottants de la part des autorités et du gouvernement.
Gilles Finkelstein.
Oui, Natacha disait à l'instant que la crainte de l'indiscipline était tout à fait justifiée, et elle a évidemment raison. La question est de savoir si cette crainte correspond à une réalité. Et pour le coup, ce n'est pas si évident quand on regarde les quelques données objectives dont on dispose. L'IFOP a posé cette question il y a quelques jours aux Français pour savoir s'il leur arrivait de sortir ou pas du tout. Il y en a un gros quart qui ne sort jamais. Et parmi ceux qui sortent, 94% disent sortir avec une attestation. Et il y a quelques jours, Google a publié une analyse dans l'ensemble des pays européens sur l'évolution des déplacements. Oui. Surprise, la France est un des trois pays avec l'Espagne et l'Italie, ce qui n'est pas une surprise parce que c'est aussi elle qui est le plus touchée, mais c'est un des trois pays parmi les plus disciplinés. Donc les données objectives, vraiment, en tout cas celles dont on dispose, viennent un peu à l'inverse de ce sentiment subjectif de photos, de témoignages, d'impressions que l'on peut avoir d'une absence de discipline. Et je pense qu'il faut essayer de se distancier un peu de ce sentiment-là. D'abord parce que on a le droit de sortir. D'ailleurs, très souvent, quand constate-t-on qu'il y a de l'indiscipline, ou quand a-t-on le sentiment de constater qu'il y a de l'indiscipline, c'est quand soi-même on sort pour faire ses courses ou pour marcher. Et on l'avait vu dans les cahiers de confinement que vous évoquiez tout à l'heure, il y a une sensibilité exacerbée des Français, ce que l'on peut comprendre par ailleurs, à cette indiscipline. Mais elle produit des conséquences. On voit le durcissement progressif des règles, aussi bien des règles locales que des règles nationales, avec l'évolution de l'attestation. Et je crois qu'il faut essayer de... Bon, on peut évidemment condamner, hein, ça, et je le fais dans toute communauté, vous avez des abrutis, des salauds, des égoïstes, et qui menacent en l'espèce la santé de tous et la durée de confinement. On peut être tenté de l'excuser. Il y a malgré tout, quand on regarde pour la première fois cette semaine, on sait combien de Français vivent ce confinement dans un appartement, ce qui est évidemment plus difficile que dans une maison, c'est 37% des Français. Et on sait qu'il y en a maintenant un tiers qui le vivent soit seul, soit dans des familles de plus de 5 personnes. Et donc là aussi, c'est, disons, une manière de comprendre. Mais je termine par là. Si on essaye d'analyser, moi, mon sentiment, c'est que quand on regarde la manière dont la France gère ce confinement par rapport aux autres pays européens, on est dans une espèce d'entre-deux. Ni on n'est pas dans la confiance totale comme le font les Suédois, qui est un des rares pays dans lesquels il n'y a pas d'obligation de confinement, et on n'est pas non plus dans le confinement extrêmement strict comme l'Italie ou l'Espagne, où les motifs pour sortir sont beaucoup plus limités. Et donc, il y a une forme de marge d'interprétation, de jeu d'interprétation, et la question que se posent beaucoup de gens souvent n'est pas de savoir si c'est d'un point de vue de leur sécurité, la santé, c'est possible de sortir, que d'un point de vue de la légalité. Et on voit d'ailleurs la multiplication du nombre de contrôles. Il y a eu 10 millions de contrôles de police depuis le début du confinement, et près de 600 000 PV. D'ailleurs, si vous faites un calcul
600
rapide,
000 PV.
Une règle, mais oui, mais écoutez, si vous comptez 25% de Français, ou même peut-être 20% de Français qui ne sortent jamais, prenez parmi ceux qui sortent 10 millions de contrôles, 600 000 PV, ça veut dire que à 97% à peu près, les règles sont respectées. C'est pas si mal.
Natacha, ça vous surprend finalement que les Français soient aussi disciplinés, contrairement à certains discours qu'on peut entendre ?
Non, dans la mesure où je pense que ces circonstances ont fait surgir chez beaucoup l'idée d'une urgence, d'un impératif, et je crois qu'il y a, et il faut s'en réjouir dans une société, et on le voit dans la société française, une majorité de gens qui ont envie de vivre en société, de respecter les règles et de respecter le bien commun. Toute la question est de savoir comment on leur donne la possibilité de le faire et comment on amplifie ce mouvement. Et je pense que toute cette question du respect des règles, du déconfinement, ne peut bien se passer, j'y insiste, que s'il y a un horizon, une forme de bon sens, une capacité pour chacun à comprendre vers quoi on va. Les citoyens sont disciplinés, ils respectent les règles autant qu'ils le peuvent. Encore faut-il qu'ils aient l'impression qu'à un moment donné, ça va se terminer, que quand ça se terminera, il n'y aura pas une casse monstrueuse et que l'amplification de ce confinement ne va pas amplifier la casse. Et c'est là où il va falloir réellement penser les choses. C'est-à-dire que j'entends assez souvent ces derniers jours, et j'avoue que ça me gêne un peu, cette espèce d'opposition entre ceux qui voudraient faire marcher l'économie et ceux qui voudraient sauver des vies par le confinement. Mais je crois qu'il ne faut pas penser les choses comme ça, parce que la crise économique qui se prépare va être majeure et il va y avoir justement une casse humaine absolument monstrueuse. Il y a des gens qui n'ont plus de revenus du tout. Il y a des gens qui ne sont pas protégés parce qu'ils n'ont pas un statut qui les protège. Tout cela va devoir être pensé. Un confinement qui durerait pendant 2 mois et demi serait certainement une manière d'empêcher la propagation plus grande du virus. Ça nous permettrait de sortir immédiatement de cette épidémie. En revanche, il faut que nous arrivions à réfléchir à la façon de remettre en route une économie sur des bases différentes, sur des bases raisonnables, en relocalisant, en réfléchissant, en changeant de système, ça j'en suis persuadée.
On va en parler tout à l'heure avec Hubert Védrine.
Qu'il n'y ait pas trop de gens qui vont souffrir. Et là, pour l'instant, je pense que c'est aussi une urgence.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, était l'invité ce jeudi de la matinale de France Inter et il parlait du projet gouvernemental de Stop Covid. Cette application qui est censée tracer l'historique de nos relations sociales pour limiter la propagation du virus. Et c'est un débat qui revient, qui n'en finit pas, Gilles, celui de savoir si la surveillance numérique peut être généralisée et si on doit se fonder sur le volontariat des Français pour pouvoir lutter à travers les smartphones contre la propagation. Vous comprenez que ce débat ne soit pas tranché ?
Je comprends qu'il ne soit pas tranché. Je me réjouis qu'il soit posé et je pense qu'il faut qu'il soit mené et que les choses soient clarifiées. Encore une fois, il faut bien toujours avoir bien le cadre en tête. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais là on se situe dans la période qui va après le confinement, le post-confinement et avant que l'on ait trouvé un virus, un vaccin ou un traitement. Il y aura un cocktail de mesures, la distanciation sociale, notamment le port des masques sans doute, des tests certainement, et la question de savoir si on peut utiliser les outils technologiques et notamment le traçage de vos contacts pour prévenir ceux qui sont potentiellement infectés par le virus, c'est de ça dont il est question. Il y a 2 éléments nouveaux cette semaine. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est le fait que le gouvernement ait dévoilé le dispositif sur lequel il travaille, Stop Covid. Le fait, d'autre part, qu'il y a eu une multiplication d'alarmes, y compris à l'intérieur même de la majorité, puisque vous avez une tribune de 15 députés de La République En Marche qui ont signé une tribune dont le titre dit tout, un dépistage massif, mais pas un pistage massif, donc qui prend ses distances. Moi, ma conviction, après avoir écouté ce sur quoi travaillait le gouvernement, c'est que le problème est moins la dangerosité que l'efficacité de ce dispositif.
C'est l'efficacité
tel que le dispositif est présenté, je pense qu'il n'y a pas de dangerosité et que donc on s'alarme pour rien. Ou en tout cas, on s'alarme pour pas grand-chose, on crie alors que ça ne fait pas mal, alors que je constate qu'il y a beaucoup d'autres sujets du numérique, d'intrusion, des GAFA, de l'utilisation de données personnelles sur lesquelles on ne crie pas alors que ça fait mal. Donc je pense que tel qu'il est, la dangerosité est faible. En revanche, il peut y avoir des interrogations sur son efficacité, dans la mesure, au-delà du fait que Il y a des problèmes techniques et Cédric O lui-même parle de barrières technologiques à franchir, notamment le fait que le Bluetooth, qui est l'instrument qui est utilisé, n'est pas fait pour mesurer les distances, mais pour que ce dispositif soit efficace, vous avez eu un article dans la revue Science d'une dizaine de chercheurs de l'Oxford Big Data Institute.
Oui.
Dans lequel, sans rentrer dans les détails, un des éléments déterminants est le nombre de personnes qui utilisent l'application. Et évidemment, le respect par ceux qui sont concernés de l'alerte qui les concerne précisément. Bon. Et quand on voit que 20% des Français n'ont pas de smartphone et que donc ça sera très difficile pour eux d'utiliser cette application, ça voudrait dire que parmi les 80%, il faudrait qu'il y en ait un pourcentage qui soit absolument considérable qui utilise cette application. Les données dont on dispose pour l'instant montrent que c'est loin d'être le cas. Et donc, de la même manière que je disais tout à l'heure pour la discipline, qu'on était dans une sorte d'entre-deux, là aussi, on est dans une sorte d'entre-deux. Soit on considère que le rapport entre le coût et l'efficacité de ce dispositif n'est pas très bon et il faut l'abandonner, soit il faut le faire vraiment. Et on le fait soit par la contrainte, l'application ne devrait pas être dans ce cas-là une faculté mais une obligation, soit oui, on le fait par la conviction et on crée de la confiance, on associe la société civile à la surveillance du dispositif, on en explique les bienfaits et le gouvernement a maintenant quelques jours ou quelques semaines pour faire en sorte que cette application soit massivement utilisée.
Natacha ?
Oui, je pense que nous avions évoqué déjà la semaine dernière la question éthique et le fait qu'il est nécessaire au fait que d'être sûr que l'ensemble des dispositions qui sont prises actuellement sont temporaires et ne vont pas s'inscrire dans le droit après la fin de cette crise. Mais il y a, je rejoins totalement Gilles, la question de l'efficacité et je vous conseille un article extrêmement clair sur cette question-là du site Next Impact qui parle justement des problèmes de fiabilité et des problèmes que pose la présomption de culpabilité que crée une telle application. Et il cite des cas rapportés par le journal Haaretz en Israël, où en fait l'anonymat des données et l'usage de la technologie du Bluetooth crée des cas totalement ubuesques. C'est-à-dire un gynécologue, par exemple, qui à un moment donné constate lui-même qu'il a ce soupçon de Covid-19, il le signale, il est testé, lui est donc en fait négatif, sauf que immédiatement tous ses patients, tous les gens de sa famille par l'application sont traqués et sont obligés de se mettre en quarantaine et même ses voisins puisque en effet ils sont à proximité. Et donc on a là quelque chose et les cas sont multiples où finalement les gens qui sont passés à côté sans qu'on puisse mesurer quelle a été l'interaction avec les autres fait que ça donne une impossibilité d'être véritablement efficace et un excès qui risque d'être contre-productif. Donc la question de savoir si tout cela vaut vraiment la peine, doit être posé calmement. Je rejoins Gilles sur le fait que, en effet, le caractère purement volontaire ne peut marcher que si on a une conviction absolue de la part de tous les citoyens qu'il faut le faire et que c'est un outil possible. Mais si cet outil aboutit à ce que toute personne ayant croisé quelqu'un ou vivant à côté quelqu'un de contaminé soit présumé coupable, ça va être problématique. Il va donc falloir réfléchir énormément et surtout ne pas faire de la technologie l'unique outil. C'est-à-dire que si toute personne qui peut potentiellement être malade, c'est-à-dire tout le monde, porte un masque qui lui évite de cracher à la figure de qui que ce soit qu'il croise, ça évite déjà beaucoup plus la contamination que tout le reste. Donc la base, tout simplement, de départ, doit être celle-là, et après, on utilise le reste en plus. Si on s'appuie trop sur la technologie, je pense que ça ne marchera pas.
Oui, encore un mot. Je partage un point de ce que dit Natacha, c'est le numérique n'est pas un outil miracle. Et d'ailleurs, il n'y a aucun outil miracle. Ça va être un cocktail de mesures qui vont nous permettre, on l'espère, tant bien que mal, de passer cette période du déconfinement sans avoir de rebond et de reconfinement généralisé. En revanche, l'exemple qu'elle donne en Israël est un dysfonctionnement de cet outil, parce que normalement, vous êtes prévenu d'avoir été en contact si quelqu'un, et seulement si le quelqu'un en question a été déclaré positif. Donc le fait d'être testé normalement ne doit pas déclencher l'avalanche que vient d'évoquer Natacha. Et par ailleurs, elle a évoqué le caractère temporaire. Elle a raison, c'est un élément très important. Tel qu'il est présenté, c'est un dispositif qui est temporaire, et y compris les données qui sont sur votre téléphone sont effacées automatiquement tous les 15 jours qui correspondent à la période dans laquelle vous pouvez avoir été en contact. On ne localise pas les déplacements comme l'on le fait avec un GPS, mais on repère simplement de manière anonyme vos contacts. Les données ne sont pas centralisées, c'est un élément très important. Elles sont simplement stockées sur votre téléphone. Et donc, moi qui suis, qui essaye en tout cas d'être très attentif au respect des libertés publiques et de la démocratie, franchement, je crois que là, le problème n'est pas un problème de dangerosité.
Midi et demi à suivre dans le grand face-à-face, le débat avec Hubert Védrine.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Un virus global et peut-être la fin de la mondialisation telle que nous la connaissons. Non pas l'ouverture sur le monde, ni la conscience d'une humanité planétaire, mais ce qu'Hubert Védrine appelle l'américano-globalisation de ces dernières décennies. Ouvrez les guillemets, celle qui a débuté dans l'après-guerre, qui s'est accélérée avec la réorientation de la Chine vers le marché par Deng en 1979, puis avec le duo Thatcher-Reagan au début des années 80 et la déréglementation financière sous l'influence de l'école de Chicago, et qui s'est enfin généralisée dans les années qui ont suivi la disparition de l'URSS fin 1991, disparition que les Occidentaux ont interprétée à tort comme la fin de l'histoire. Bonjour Hubert Védrine.
Oui, bonjour.
C'est Dominique Strauss-Kahn qui vous cite dans un long papier qu'il consacre à la mondialisation et aux conséquences du coronavirus sur la manière dont le monde est interconnecté. Et il vous cite justement, Hubert Védrine, vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères, l'un de nos meilleurs spécialistes des relations internationales. Vous faites partie de ces quelques experts qui doivent réfléchir aujourd'hui à l'avenir de l'OTAN. Merci d'être à l'antenne de France Inter. J'aimerais que vous nous expliquiez, Hubert Védrine, très simplement, si vous pensez que ce virus global, le coronavirus, signe aujourd'hui la fin de la mondialisation telle que nous la connaissons.
Avant de répondre à votre question, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec la conclusion à laquelle arrivaient Gilles Finkelstein et Natacha Polony sur le fait qu'on sortira par étapes du confinement, par un cocktail de mesures qui permettra de gérer la suite. Et je trouve leur synthèse excellente. Alors, sur votre question, oui, première remarque, je crois que jamais l'humanité tout entière n'a eu peur de la même chose comme ce que nous voyons en ce moment. Jamais.
Jamais. Expliquez-nous ce paradoxe, parce qu'on a tout de suite en tête, évidemment, l'exemple de la première, de la deuxième guerre mondiale, du 11 septembre. On a pas mal d'exemples qui nous viennent spontanément à l'esprit. Qu'entendez-vous par là ?
Toutes les grandes pandémies dont on parlait, dont les grandes pestes. Mais la Première Guerre mondiale n'a pas été mondiale. Il y a énormément de continents qui ont échappé. Même la Deuxième Guerre mondiale n'a pas été tout à fait mondiale. Et ce sont les Occidentaux qui ont donné ces termes, parce que c'est de l'occidentalo-centrisme. Bon, après, le 11 septembre, ça a provoqué un choc gigantesque en Occident, on va dire. Une certaine indifférence en Asie, vous voyez, sans parler de ce qui s'est passé dans le monde musulman. La crise financière en 2008... ça a complètement tétanisé le système financier mondial issu justement de la période récente dont je parle, de la globalisation déréglementée. D'ailleurs, il faut peut-être que je change ma propre formule, parce que je parle d'américano-globalisation, mais cette période, c'est une globalisation sino-américaine, parce qu'il y a une sorte de deal énorme après Deng Xiaoping et Kissinger, qui est que, en gros, l'Occident va transférer la production de masse en Chine. C'est un des éléments de la question.
Et on y reviendra.
La remarque est la même, qui est que je crois que c'est sans précédent, qu'il n'y a pas d'équivalent dans la force, dans l'angoisse partagée. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que la mondialisation financière et celle des virus. Il y a la mondialisation de l'angoisse, la crainte, et par rapport à une époque dans laquelle l'idée de la fragilité, de la mortalité est devenue intolérable, surtout quand elle était imprévisible. On croyait avoir triomphé des maladies anciennes, variole, puis grâce à la pénicilline, grâce aux antibiotiques. Donc ça réintroduit du tragique massivement dans une mondialisation. Alors il y a l'aspect géopolitique, c'est-à-dire les mondialisateurs qui sont dominants, qui ont mondialisé les autres, qui sont finalement devenus addicts à cette forme de vie. Il y a l'aspect, disons, individualisme de masse, l'aspect festif. Alors, tout ça s'est percuté de plein fouet par cette pandémie qui avait été extrêmement prévue. Quand on reprend les analyses des présidents de la CIA et de beaucoup d'autres après, Bill Gates par exemple, c'est prévu avec une précision sidérante. Mais ça n'a pas été entendu parce que c'était trop. C'était too much parce que ça remet en cause tout un mode de fonctionnement. D'une part, l'effondrement de la biodiversité est lié à la naissance de ces épidémies, de ces pandémies, compte tenu de la facilitation du passage des virus de l'animal sauvage à l'animal, à l'homme, etc. Ça concerne beaucoup la Chine, mais aussi beaucoup l'Afrique et d'autres pays. Il n'y a pas que cette source. Enfin, il y a cette source. Et après, il y a la propagation. La propagation foudroyante, elle est liée au mode de vie contemporain. Au déplacement, oui. Mais le déplacement de masse, tourisme, c'est le mode de vie contemporain. Ça peut expliquer pourquoi ce qui était prévu avec une précision effrayante, effarante, n'a pas été entendu. Mais après, on arrive en plein dans le choc. Et c'est là où je me dis que ce choc, ça dépend des réponses, ça dépend des suites. Ce choc peut donner naissance à quelque chose qui n'a pas que négatif.
Alors justement, Hubert Védrine. Justement, Hubert Védrine, avant de laisser la parole à Gilles et à Natacha, j'aimerais que vous nous expliquiez, vous avez toujours eu un regard lucide ou sévère, selon les analyses, sur l'idée qu'il existerait quelque chose comme une communauté internationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, selon vous, la crise que nous traversons pourrait être l'occasion de construire enfin une véritable communauté internationale? Ça semble paradoxal.
Non, ça peut être un traumatisme qui crée des réflexes communs que l'on peut organiser. Quand je disais depuis des décennies, avec regret, qu'il n'y avait pas encore de communauté internationale, même le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, qui est remarquable par ailleurs, parle d'un chaos mondial. Bon, pas encore de communauté. C'est les mondialisateurs dominants, ce sont les occidentalistes, qui parlaient de communauté internationale. N'oubliez pas que la Charte des Nations Unies a été rédigée, y compris son préambule qui est magnifique, par les directeurs juridiques des 3 ou 4 pays clés de la question. Donc en gros, c'était les Occidentaux comme des ventriloques qui parlaient de communauté internationale. Je pense qu'elle est souhaitable, elle est à construire, mais il est évident que les mentalités des peuples sont et restées totalement différentes. Donc là, je me dis que, compte tenu du traumatisme sanitaire, du fait que ça peut se reproduire, les mêmes causes reproduisant les mêmes effets, d'ailleurs, le virus dont nous parlons est encore là pour un certain temps. Ça peut créer quelque chose.
Alors, quelque chose comme une communauté de destin assez inédite. Justement, j'aimerais entendre Natacha et Gilles en débattre avec vous. D'abord, Natacha Polony.
Oui, Hubert Védrine, j'aimerais finalement croire à cette idée que c'est de cette façon-là que nous allons sortir de cette crise, mais j'ai un doute. Pourquoi ? Parce que je vous rejoins totalement sur l'analyse donc de ce deal entre les États-Unis et la Chine à travers une globalisation qui en fait était une uniformisation du grand marché mondial et fondée sur le court terme. C'est ce court terme qui a empêché justement la réaction à cette épidémie un peu partout. C'est le règne du court-termisme. Mais justement, ce qu'on voit, c'est la façon dont la Chine a instrumentalisé ce deal. L'entrée de la Chine dans l'OMC, c'est un basculement majeur en fait dans l'histoire de cette globalisation. Puisqu'on a donc un pays qui ne respecte absolument pas les règles qui sont censées être les règles communes et qui malgré tout infiltre l'ensemble des instances internationales, et l'aboutissement ultime est l'infiltration de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Le président de l'OMS, le président éthiopien, est en fait extrêmement lié aux intérêts chinois, ce qui sans doute explique en partie l'incapacité de l'OMS à anticiper cette épidémie. Donc est-ce que ce qui va sortir de là, ce n'est pas finalement une victoire encore plus grande de la Chine ? Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre un affaiblissement majeur des États-Unis une difficulté, une fois de plus, de l'Europe à sortir de là comme une puissance, et en face, une Chine qui est responsable, coupable même d'avoir menti, coupable d'avoir caché, coupable d'avoir répandu cette épidémie, mais qui est en train de se positionner de façon extrêmement puissante à travers une instrumentalisation même de cette crise sanitaire.
Hubert Védrine.
Natacha, je ne suis pas en désaccord, mais il ne faut pas être fataliste. Je ne dis pas que je crois à ce que j'ai décrit, je dis que c'est ce qu'il faut faire et ce qu'il est peut-être possible de faire. Je pense qu'après la crise, ce n'est pas une crise d'ailleurs, dans un certain temps, il y aura une évaluation qui doit être sévère, systématique, sans complaisance, des politiques suivies par l'ensemble des gouvernements, y compris le gouvernement chinois que vous citez, mais le gouvernement européen naturellement, de toutes les organisations, y compris l'Europe, pour non pas faire des procès sans fin, mais pour dire comment on s'organise pour la suite. À ce moment-là, je ne crois pas que la Chine puisse se borner à triompher, que ce qu'elle fait en ce moment, il ne faut pas être indigné par le comportement de la Chine, les Occidentaux font ça depuis des siècles. Bon, donc c'est pas extravagant, une surprise extraordinaire que la Chine se comporte en puissance aujourd'hui. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas à permettre à la Chine de dominer le système chaotique d'après. Donc je pense que dans cette période, il faut une évaluation systématique, je viens de le dire, mais de tous les pays. Hein. Il faut des réponses. Par exemple, je ne vois pas comment même la Chine pourrait s'opposer à ce qu'il y a après une OMS modifiée, réformée, renforcée, c'est-à-dire un système de détection instantanée mondiale de toute épidémie potentiellement pandémique, avec une information immédiate, transparente, et une réaction, une organisation.
Oui, une coopération.
Dans les débats, bon, je ne vois pas comment même eux pourraient, donc ils ne pourront pas empêcher qu'on pose la question des marchés, par exemple en Chine, animaux sauvages, animaux domestiques, etc. Et les Occidentaux ne pourront pas échapper à la question, disons, de l'individualisme de masse, de l'insouciance absolue, corrigée par des évolutions récentes, et ce que disait Gilles tout à l'heure est tout à fait intéressant sur le comportement des gens. Donc tous les pays, y compris la Chine, donc je ne crois pas qu'on aille vers une sorte d'hégémonie chinoise facile. Quant aux États-Unis, même s'ils sont totalement erratiques sous la conduite non éclairée de Trump, ils ont encore beaucoup de potentiel, on a encore beaucoup de potentiel. Donc je parle de ce qu'on doit faire. Je ne fais pas simplement des prévisions utopiques. Hein.
Oui, Gilles Finkelstein.
Oui, je pense comme tous les Français, là, et d'ailleurs au-delà des Français, parce que c'est un phénomène mondial, s'interrogent profondément sur ce que peut être le monde d'après et sur l'ampleur de la rupture. Et donc, il y a mille et un sujets sur lesquels j'aimerais vous faire réagir, y compris la question de la mondialisation et du verdissement des politiques sur lesquelles j'aimerais bien revenir. Mais si on reste sur les équilibres géopolitiques qui peuvent ressortir de cette crise, j'ai le sentiment qu'il y a une idée qui s'installe, qui est que de la même manière que la Première Guerre mondiale avait marqué un basculement vers l'Ouest, et vers le leadership des États-Unis, le Covid-19 marque un basculement vers l'Est et avec un leadership de la Chine. Et la question que je voudrais vous poser est de savoir, est-ce que, puisque vous êtes un réaliste, est-ce que nous sommes collectivement des victimes, et parfois des victimes consentantes, d'une mystification? C'est-à-dire que la Chine soit une grande puissance démographique, économique, politique, militaire, scientifique, technologique, évidemment. Mais est-ce que dans cette gestion de la crise, elle n'a pas mieux réussi sa propagande que sa politique? L'image de l'hôpital qui se construit qui s'était construit en Chine en quelques jours, les ponts aériens de masques made in China, les chiffres officiels d'une vague d'épidémie qui est contenue et qui reflue, il y a ça. Mais il y a aussi une réalité qui est que la Chine a connu les mêmes difficultés que les régimes démocratiques au début. Le manque de gel, le manque de matériel, la désorganisation des hôpitaux, avec peut-être des difficultés supplémentaires, précisément parce que c'est un régime totalitaire, le retard coupable au départ et l'accumulation des mensonges à l'arrivée. Donc, est-ce qu'on est collectivement victime d'une mystification?
Hubert Védrine.
Je suis d'accord avec Finkelstein, il ne faut pas exagérer. Le fait que la Chine soit l'émergent numéro un, qu'ils ont réussi cette ascension phénoménale depuis 40 ans, enfin, c'est connu de tout le monde. Simplement, c'est entré dans le champ du choc général pour l'opinion, aujourd'hui. Mais c'est d'avant, il y a déjà un débat depuis 20 ans auquel je participe. Moi, je dis depuis une vingtaine d'années que les Occidentaux ont perdu le monopole le monopole du pouvoir et de l'influence. Il y a des théoriciens asiatiques, par exemple le Singapourien Kishore Mahbubani, qui dit non, c'est la fin de la parenthèse occidentale. Moi, je ne suis pas sur cette ligne. Je ne crois pas. Et je crois qu'il y a beaucoup de faiblesses dans le système chinois, beaucoup de forces en même temps, mais c'est évident qu'ils ont mieux réussi la propagande que les autres. On ne peut pas en faire une maladie non plus. On a passé notre vie, nous les Occidentaux, à faire de la propagande sur nos interventions, nos actions, notre ingérence, notre humanitarisme, etc. etc. C'est pas la fin de l'histoire, ça. Donc, après, il va y avoir, je reviens à ce que je dis d'avant, une explication inévitable à laquelle il faut participer en posant les bonnes questions, en faisant les bonnes propositions. Donc, qu'est-ce qu'on organise après? On ne va pas aller vers une espèce de mythique gouvernance mondiale. Ça ne veut rien dire. Le gouvernement des experts, ce n'est pas l'OMS de demain, même renforcé. Il a décidé à quelle date on va déconfiner la Bretagne. Bon, c'est idiot, la gouvernance mondiale. Par contre, l'obligation de coopération avec plus de transparence et de responsabilité, c'est à nous d'agir pour que la Chine soit obligée de répondre aux questions que Gilles Finkelstein a soulignées à juste titre. D'autant qu'il y a des pays asiatiques qui s'en sortent finalement plutôt mieux, c'est dans ceux qui s'en sortent le mieux, mieux que la Chine, mieux que nous. Hein. C'est la Corée du Sud, Singapour, ça dépend avec des nuances, parce qu'ils ont, ils viennent vers quand même aussi un confinement, Taïwan, Hong Kong d'une certaine façon, donc il faut étudier comment s'étaient organisés les pays qui avaient tiré des bonnes leçons du SRAS. Vous voyez, je ne raisonne pas en termes de spéculation et de scénario, mais sur ce que nous devons faire. Il y a plein de choses à faire.
Quand et en tirant les leçons de crise que nous avons déjà pu connaître de manière plus locale, mais quand on réfléchit à l'après Hubert Védrine, parmi les scénarios qui se présentent et qu'on peut voir présenter sur l'espace public à travers des tribunes, des livres, que sais-je, lequel vous semble le plus crédible? L'idée de démondialisation, l'idée que il y aura un avant et un après, que on ne sera plus dans le même monde que celui que nous avons connu jusqu'à présent, où l'interdépendance faisait que nous allions, par exemple, acheter des produits comme des masques ou des respirateurs et les faire fabriquer à l'autre bout du monde. Est-ce que vous pensez que c'est le retour des frontières, qu'il va y avoir plus de protectionnisme, un retour de la souveraineté industrielle, par exemple, dans de nombreux pays, et notamment en Europe?
Écoutez, il y aura un peu de tout ça, mais on ne change pas du jour au lendemain, ça, on ne retourne pas le monde comme une crêpe. Hein. Et même Kissinger dit que le monde d'après ne sera pas le monde d'avant. Même Pascal Lamy, qui était l'incarnation de la mondialisation à travers l'OMC, parle des corrections qui auront lieu, qui ont déjà commencé, par exemple dans la fameuse chaîne des valeurs, pour d'ailleurs s'interroger sur quoi sont fondées les valeurs qui constituent les chaînes en question. Même Madame Lagarde le dit, donc même des gens qui ont incarné, qui ont été au cœur de ce mouvement, ne défendent pas l'idée qu'on va revenir exactement dans le monde d'avant. Oui. Et je connais beaucoup les milieux industriels et qui sont à mon avis plus pragmatiques que des théoriciens de la mondialisation. Par contre, il y a des théoriciens de la mondialisation qui sont heurtés de plein fouet, parce qu'il y a une synthèse, notamment en France ces dernières décennies, entre, disons, l'ultralibéralisme économique et la pensée libertaire, individualiste, festive. Donc il y a une synthèse entre les deux, qui est quand même mise très 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 mal à l'aise par ce qui se passe en ce moment. Mais les milieux économiques vont répondre avec pragmatisme, y compris sur la question du verdissement dont parlait Gilles Finkelstein tout à l'heure. Ça ne va pas s'arrêter. Vous pensez bien que les gens après ne vont pas acheter n'importe quoi, ils vont continuer à vouloir acheter des aliments de plus en plus bio. Ils sont de plus en plus attentifs, notamment les jeunes qui vont dans les grandes entreprises, au programme d'écologisation des entreprises en question. Donc je ne crois pas du tout que la thèse défendue dans quelques tribunes libres, il faut bazarder les contraintes écologiques, l'emportera. C'est un réflexe archaïque. Donc il y a beaucoup d'éléments. La chaîne de valeur, j'en ai parlé. Il est évident que je pense que le développement du tourisme de masse ne sera pas dans l'avenir celui qui était prévu, celui qui s'est développé depuis, disons, une vingtaine d'années. Je crois qu'on était à 1,6 milliard de touristes. Donc, il y a énormément de changements. Est-ce que ça conduit à la démondialisation complète? Bien sûr que non. On ne va pas transformer 7 ou 8 milliards d'habitants de la planète en chasseurs-cueilleurs dans la vallée du Rift. Hein. On ne revient pas à l'origine. Bon, comme dans Superman, vous voyez, il tourne autour de la planète et on revient à l'envers. Ouais. Par contre, énormément de corrections, de modifications et de modifications positives. Parce que le retour à la normale n'est pas une option. La normale d'avant n'était pas normale, y compris sur le plan social. Regardez la découverte à travers les reportages innombrables de l'ensemble des métiers auxquels on ne pensait plus, qui sont en général payés au SMIC, en gros, quoi, et sans lesquels la vie n'est pas possible. Donc je pense qu'il y a énormément de changements. Il ne faut pas faire ça, parler en termes de pronostics. Comment est-ce qu'on organise ça, vous voyez ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?
Il reste une dizaine de minutes, Natacha, puis Gilles Finkelstein, Natacha Polony.
Justement, je suis d'accord avec vous que la question n'est pas de savoir si on élabore des scénarios, la question est de se demander comment on doit agir pour éviter que la mécanique ne se remette en route vers la facilité. La crise qui vient va être économiquement majeure. Le risque est de voir surgir des instruments de traitement de cette crise qui soient en fait une remise en route de la mécanique folle qui nous a conduit là. Donc la question de la, il s'agit pas de dire on va arrêter la mondialisation, on va mettre des frontières, du protectionnisme, etc. Parce qu'en effet, ça ne se pose pas en ces termes-là. La question est de savoir comment on construit une économie moins interdépendante, une économie qui ne délocalise pas la pollution occidentale ailleurs comme on l'a fait depuis le début, donc qui permette de penser l'ensemble de la chaîne de production de façon plus écologique, de façon plus, tout simplement plus rationnelle. Mais cela nécessite d'avoir les instruments pour ça. Et la question est celle de, justement, des règles et des instruments. Est-ce que l'ensemble des mécanismes qui aujourd'hui décident pour nous vont aller dans ce sens-là? C'est-à-dire, on peut être optimiste et dire, comme vous, même Pascal Lamy, même des gens comme ça, disent « ça ne pourra pas être exactement comme avant ». Mais il se trouve que nous avions Pascal Lamy ici la semaine dernière, et que même s'il explique que ce n'est pas, et ça ne doit pas être exactement comme avant, je ne pense pas non plus qu'il ait bouleversé son logiciel, et je ne pense pas non plus que l'ensemble des instances comme l'Union européenne, comme les différents pays qui, dans l'Union européenne, tirent vers l'orthodoxie budgétaire, vers la rigueur, y compris de quoi il s'agisse, on le voit avec les discussions avec les Pays-Bas, etc. Donc tout le problème est de savoir quels sont les instruments qui, concrètement, vont permettre de reconstruire autre chose, et si ces instruments seront démocratiques.
Réponse, Hubert Védrine.
Je pense que tout ça a commencé. Regardez, par exemple, l'Allemagne est obligée de suspendre le dogme des 3%. Bon, c'était inimaginable avant. Ça crée une situation dans laquelle les choses peuvent bouger. Évidemment, on n'arrivera pas à convaincre les pays du Nord de prendre en charge les dettes des pays du Sud. Mais il peut y avoir une mutualisation des efforts d'avenir. Donc, il faut parler de façon volontariste. L'histoire de la relocalisation, oui, il y en aura certaines, pas toutes, mais ça nous renvoie à une politique de réindustrialisation qui a été abandonnée en Europe, mais pas en Allemagne. Donc, c'est pas lié à l'Europe, c'est lié à la France. Une espèce d'idéologie complètement absurde. Les entreprises sans usine. Donc il y a eu une ou deux générations qui se sont trompées en France sur ce point. Ça n'empêche pas de remettre en cause maintenant, le moment est venu, la politique de concurrence de l'Europe. Donc tout ça peut être fait, il y a des pistes dans tous les sens. La redécouverte du rôle des États qui traumatise complètement les libéraux extrêmes et les individualistes, disons, rien forcenés. Bon. Elle est là, mais les États ne vont pas faire non plus n'importe quoi, il y a une réponse à apporter. La dépendance, bien sûr, on voit que c'est caricatural, des molécules vitales, on en fabrique 2% et tout le reste s'achète. Bon, ouais. Il faut peut-être aller vers une situation dans laquelle on a au moins, d'ailleurs, on reconstitue un certain niveau qui sera fixé de réserve stratégique. Il faudra fixer ce niveau pour certaines molécules, pour des masses, mais aussi pour les terres rares, mais aussi pour certains éléments électroniques. Après, est-ce que c'est géré au niveau national, européen, c'est une question à voir, mais c'est ouvert, ça. On peut poser la question maintenant. Et en tout cas, dans l'interdépendance mondiale qui ne va pas disparaître, il ne faut pas dépendre d'un seul pays pour un produit vital, c'est évident ça. Donc il faudra diversifier. On est très 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 dépendant de l'Inde, hein, dans certains domaines, par exemple pharmaceutiques. Les frontières, c'est évident que les frontières ne sont pas des murs. Régis Debray a écrit des choses très remarquables depuis des années, Michel Fouché aussi et d'autres. Les frontières, les sociétés, les peuples en ont besoin. Il faut être pragmatique là-dessus. À certains moments, fermer les frontières à un moment donné est une solution parmi d'autres qui est utile. Il faut être pragmatique, pas idéologue. Mais c'est pas une réponse non plus. Donc il faut refaire un Schengen qui fonctionne. Tout ça est devant nous. Et compte tenu du bouleversement des idées, des certitudes, et de la panique que je lis à travers les interventions écrites de lire, je pense que beaucoup de choses deviennent possibles. Donc je redis ce que j'ai dit au début dans ma première réponse. Hein. Je ne dis pas ça, je ne suis pas devenu un optimisme nié. Hein. Je pense qu'énormément de choses sont jouables, sont faisables.
Mais c'est quand même étonnant, Hubert Védrine, d'entendre justement une forme, malgré tout, d'optimisme ou de perspective pour l'avenir dans votre voix. Je le dis en souriant, mais on a compris le sens de ce que vous disiez.
Volontariste.
Gilles Finkelstein.
Oui, Noah Yuval Harari a utilisé une formule que je trouve assez parlante. Il dit « on est entré dans un vortex historique », c'est-à-dire un tourbillon dans lequel les lois normales de l'histoire sont suspendues et que il y aura malgré tout un avant et un après qui est, je crois, une thèse qui est maintenant assez couramment partagée, et donc une nouvelle phase de la mondialisation, être plus volontariste, vous l'avez dit. Ça fait de nombreuses années que vous insistez sur l'urgence environnementale dans vos derniers essais, notamment la lutte contre le changement climatique. Donc j'espère que ce que vous dites sur le fait que les plans de relance intègrent le Green Deal, intègre cette urgence environnementale, qu'on profite des sommes considérables qui sont en train d'être mobilisées pour accélérer la transition et qu'on tire les leçons de la crise sanitaire pour anticiper pendant qu'il en est encore temps. En même temps, je mesure la pression qui va être extrêmement forte pour faire repartir et pour faire repartir aussi vite que possible la machine économique alors que la croissance est plus qu'à l'arrêt, on connaît une récession extrêmement forte et qu'il y a des secteurs entiers qui sont menacés, je pense, à l'automobile et qui vont exercer une pression considérable pour que les contraintes du changement climatique soient plutôt relâchées. Mais j'espère qu'on va aller dans ce sens-là. Ma question, elle porte sur la question du tourisme.
Rapidement, oui.
Plusieurs fois, vous avez évoqué cet individualisme de masse, cette pensée libertaire, individualiste, hédoniste, festive. Vous vous inquiétez de la folie du développement des mouvements de population et du tourisme en particulier. Alors, on va pas, si on le limite, c'est pas pour des raisons de santé publique, ça empêchera pas les virus de circuler, mais pour des raisons environnementales. Mais comment fait-on cela, puisque on réfléchit au monde d'après et aux mesures qui emmènent vers ce monde d'après?
En quelques mots, Hubert Védrine.
D'abord, sur l'écologie, je ne pense pas qu'au climat, je pense à la biodiversité. Je vous signale que normalement, il y avait en Chine, en novembre, la COP annuelle sur la biodiversité qui est reportée à l'année d'après. Je n'imagine pas que ça ne devienne pas un rendez-vous stratégique, pas commode pour la Chine, dont le monde entier doit se préoccuper. Et ça ne concerne pas que les certains animaux dont la survie est en danger. C'est une question de survie, vous savez, à cause des zoozones et d'oses. Bon, d'autre part, sur la question des mouvements perpétuels, on va dire le mouvement brownien, c'est un monde où il y a économie à flux tendu plus mouvement brownien. Si on ne veut pas que les sites destinataires principaux des mouvements touristiques deviennent comme l'île de Pâques, ou comme Santorin, ou comme Venise bientôt, ou comme les Ramblas à Barcelone, ou comme certains autres endroits qui devront être fermés, comme Angkor, etc., il faut l'organiser. Alors je ne sais pas comment, je sais que je touche un point très 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 sensible, je ne vais pas empêcher les gens de découvrir le monde naturellement, mais je sais qu'il y a un lien mécanique avec la situation dans laquelle on est. Voilà, donc on verra après comment ça se traite. Il se peut d'ailleurs que spontanément, il y a un moindre empressement à se précipiter dans ces flux gigantesques, puisqu'on l'a dit depuis le début de cette émission, le virus est là pour longtemps, il y aura d'autres pandémies. Donc je pense qu'il y aura un rééquilibrage. Le tourisme fait en gros 10% du PIB mondial, mais dans certains pays, ça veut faire 50 ou 60%. Je pense qu'il faut redévelopper en parallèle des activités plus écologiques. Et je ne crois pas que même la relance pressante, immédiate, urgente, on parle à juste titre Gilles Finkelstein, je ne pense pas qu'elle puisse bazarder le mouvement d'écologisation qui a commencé partout. Il y a des centaines de millions de gens en France qui travaillent sur une agriculture biologique plus productive, sur des molécules chimiques moins dangereuses, sur des modes industriels qui recyclent mieux, etc., etc. Ça a démarré tout ça. C'est impossible de le bazarder, même pour des raisons d'urgence. Donc il y aura des reports, il y aura des étalements, des changements de rythme et de délai, mais ça ne s'arrêtera pas, il ne faut pas que ça s'arrête. Et l'Europe, les Européens, s'ils se mettent d'accord enfin là-dessus, le Green Deal de Mme von der Leyen ne doit absolument pas être abandonné. Et les grands patrons de l'industrie ne disent pas ça, d'ailleurs. C'est les théoriciens de la macroéconomie qui disent ça dans certains articles. Mais ce n'est pas vrai, ça n'aura pas lieu sous cette forme.
On a compris ce message, Hubert Védrine. D'un mot, pourquoi est-ce que on voit un virus global des réponses nationales? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'équivalent de l'OTAN pour les questions de santé, une organisation opérationnelle prête à intervenir de manière globale face à une menace qui se présenterait ici ou ailleurs.
Attendez, ça n'a rien à voir. Donc je ne développe pas le sujet autant, c'est un sujet complètement...
Non, je plaisante, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas une organisation prête à intervenir à l'échelle globale pour lutter contre un virus global au lieu de laisser ça uniquement entre les mains des nations?
Et attendez, les gens redécouvrent la nation. Ils ne sont pas d'accord avec les discours mondialisateurs qui voulaient éradiquer les nations. Les gens, il y a des identités, il y a des nations, ça n'a absolument rien de scandaleux. C'est la base même de la légitimité. Donc il faut beaucoup plus de coopération internationale entre ces nations. Ce n'est pas un problème. Et comme j'ai dit tout à l'heure, évidemment, il faut un système d'alerte rapide et de réaction immédiate. Donc il faut transparence, il faut honnêteté, il faut organisation, il faut détection, il faut confinement par groupe spécialisé. Bon, et donc, mais il ne faut pas que, par exemple, il y ait un système mondial, je reprends ma formule.
On va devoir rendre l'antenne. On va devoir rendre l'antenne, pardon, de vous interrompre, Hubert Védrine.
Pas de gouvernance par des experts, mais un système de réaction rapide, immédiat.
Le message est passé. Bon week-end, bon confinement, Hubert Védrine, Natacha et Gilles, à samedi prochain. Merci à toute l'équipe du Grand Face à Face, à suivre sur Inter, le journal.